Vivre FM podcast. De 10h à 11h, la santé mentale en question, Anne Voileau.
Santé mentale en question, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir Nadia. Elle est venue à notre micro la première fois grâce au Théâtre de Cristal et j'ai eu envie de mieux la connaître et de découvrir le parcours de cette jeune femme pas ordinaire. Nadia a vécu presque toute sa vie dans différentes institutions. Elle connaît la souffrance de la séparation. Issue d'une famille de 6 enfants, originaire d'Algérie, Nadia a mis 10 ans à réaliser son rêve, être comédienne. Aujourd'hui, très professionnelle, elle aimerait travailler avec différents metteurs en scène pour évoluer dans son métier. Restez sur Vivre FM avec Nadia, vous saurez qu'à force de volonté, on peut arriver à réaliser ses rêves. Nadia, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir nous voir, ça me fait plaisir parce que je vous ai entendu un peu à travers le centre de formation, mais j'avais envie de vous connaître un peu mieux. Alors, qui vous a donné l'idée de venir dans ce centre de formation de la radio ?
Ben c'est tout simplement la dernière rencontre que j'ai eue en compagnie de Monsieur Coudert et puis en compagnie aussi de vous, Anne, hein, qui nous avait agréablement bien reçus. Et puis ben voilà, j'ai décidé de poursuivre. Je me suis dit pourquoi pas aller un peu parler de mon vécu, de moi, de qui je suis.
Voilà, ben, puis pour voilà. Aider peut-être, parce que là vous êtes très souriante et on sent que ça va plutôt bien. Donc on se dit, qu'est-ce qui s'est passé avant en fait ?
Il s'est passé beaucoup de choses qui sont des souvenirs qui me reviennent par moments et qui me contrarient. J'ai vécu dans des institutions.
Très jeune ?
Très jeune, à l'âge de 7 ans.
Ah oui, c'est jeune ça.
Voilà.
Alors comment ça se fait que vous êtes retrouvée dans une institution à cet âge ?
Pour des raisons médicales en fait, parce que je tombais malade. Je faisais de l'eczéma et j'avais des problèmes d'urine. Donc, ce qui fait que ben, ça endommageait beaucoup ma scolarité. J'étais différente des autres enfants. C'était à peu près l'image qu'on en donnait hein,
voilà.
dans les années 70. Ouais. Quand vous n'étiez pas comme tout le monde, on vous mettait un petit peu à part. Et en fait, c'est une institutrice qui a donné l'alerte à mes parents. Mes parents ont donné l'alerte à une assistante sociale. Une assistante sociale a donné l'alerte à un psychologue et vice-versa. Et ils ont dit que c'était pas nécessaire que je poursuive une scolarité avec autant de problèmes liés à l'eczéma. En fait, c'est l'eczéma, c'est des problèmes d'urine et tout. Il fallait absolument qu'on fasse quelque chose, que je soigne cette maladie.
Oui, avant de continuer les études.
Voilà.
C'était peut-être un peu dur, non, quand même ?
Alors,
parce qu'est-ce qu'on pouvait pas faire les deux choses en même temps ?
Pour moi, c'est très difficile parce que j'ai un vague souvenir de savoir comment j'ai poursuivi ma scolarité. En revanche, là où je me souviens très bien, c'est d'avoir été arrachée à ma famille. Je sais très bien comment ma mère, elle l'a vécu. J'oublierai jamais
très
le regard
mal.
De ma mère. Elle ne comprenait pas.
Ah oui, mais est-ce que c'était bien nécessaire aussi, quand même ?
Je pense qu'avec le temps aujourd'hui, avec les années passées, c'était nécessaire. C'était nécessaire parce qu'aujourd'hui, je suis guérie de ce problème d'eczéma. J'ai plus de fuite urinaire non plus, heureusement. Hein. Mais j'ai des séquelles. Voilà, j'ai des conséquences psychologiques, j'ai des séquelles puisque j'ai dû subir une opération au bas du ventre pour arrêter, pour ralentir
oui,
justement,
ouais.
qui fait que par la suite, j'ai pris beaucoup de poids au niveau du ventre, essentiellement.
Sinon, alors, est-ce que vous ne pensez pas, même on ne refait pas le passé, hein, mais quand même que vous auriez pu être suivie, soignée, tout en restant dans votre famille, en fin de compte ?
C'est
parce
vrai.
Que, est-ce qu'il n'y a pas des séquelles aussi de cette séparation avec votre famille ?
Mais il y en a plein, évidemment qu'il y en a plein. Mais on est dans les années 70, je suis née en 72, donc j'avais 7 ans, donc c'était en 79.
Oui, c'est presque 80 là déjà.
Ouais, il n'y avait pas d'hôpitaux. Il n'y avait pas d'hôpitaux suffisamment assez équipés pour soigner des maladies jugées importantes, pour ne pas dire graves. Il y avait un hôpital, certes, mais il n'était pas suffisamment prêt pour me recevoir.
Donc, est-ce que vous étiez pas à Paris, vous étiez dans...
Dans les Pyrénées, à
ah,
Pau.
Oui, voilà, c'est peut-être ça, là, il n'y avait pas grand-chose là-bas.
Voilà, ah,
oui.
Et c'est là que j'ai découvert un hôpital qui s'appelait le Préventorium, c'est-à-dire un mélange de personnes malades,
oui.
catégories... Enfin, on mélangeait tout le monde.
Oui,
hein,
là, il y avait un peu tout le monde. Là.
Voilà. Voilà.
Normalement, c'était fait pour les personnes qui avaient des atteintes aux poumons, de tuberculose, après, on mettait... effectivement, j'ai rencontré des jeunes qui avaient effectivement aussi soit qui faisaient pipi au lit, soit qui avaient des fuites urinaires. Je ne sais pas pourquoi on les mettait là, d'ailleurs.
C'était pas franchement...
Parce que je pense que c'était quand même une époque où on cherchait peut-être pas à comprendre. Oui. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup plus évolué au niveau médical. Malheureusement, moi, je n'ai pas connu ça, mais je suis très contente pour les autres malades aujourd'hui que les choses ont évolué. Mais moi, bon, j'ai vécu une époque qui était la mienne en tant qu'enfant. Donc, j'ai été soignée différemment avec les moyens que moi, je connaissais, qui ne sont pas les mêmes que maintenant. Ceci étant, les préventoriums, le plus gros chagrin que j'ai pu connaître, c'est d'avoir été enfermée pendant 2 ans.
Oui, quand même, de 7 à 9, c'est très dur à cet âge-là.
Voilà, donc j'ai pas pu voir mes parents. Mes parents me correspondaient par courrier, quoi. Pas de coup de téléphone, évidemment. Et le plus beau souvenir que j'ai de ce préventorium, parce que j'en ai quand même un, déjà, j'aimais pas la ville de Pau.
Déjà,
oui. Donc, mais j'en ai en plus un très très vague souvenir. J'aimais pas du tout les infirmières non plus, donc voilà. Mais c'était qu'un jour, j'ai reçu un colis de la part de mes parents, et dans ce colis, il y avait essentiellement des bonbons, des gâteaux, des chocolats.
Oui, du plaisir.
Voilà. Okay. Donc, de là, je me suis dit, quand même, il y a quelque chose de l'extérieur.
Oui, l'extérieur existe, parce que c'est voilà. Quand même très fermé. Hein.
Voilà, voilà. Ouais. Et quand on voyait la nourriture, qui n'était pas une nourriture infecte, hein, moi, je n'ai jamais été une enfant difficile, hein, je mangeais tout ce qu'on me donnait, parce que c'était comme ça, et qu'il fallait s'adapter à un roulement, un règlement presque institutionnel dans ce genre d'hôpital qui faisait que si tu mangeais pas, bah tant pis, t'avais rien d'autre. Je mangeais légumes, fruits, mais c'est pour ça qu'au fil des années, je me suis habituée à manger de tout et que j'ai jamais été difficile. Mais je crois que la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est ce colis.
Oui, ce colis. Mais quand même, les vacances de Noël, les grandes vacances, vous partiez dans votre famille quand même
Sur les 2 ans, non.
Ça, c'est quand même, oui.
Oui. C'est pour ça que les Pyrénées, la ville de Pau, j'en ai pas du tout un bon souvenir.
Et alors, après, au bout de 2 ans, vous sortez?
Je sors. Je suis prise en charge par mon frère, qui est âgé de 13 ans à l'époque, puisque mon papa ne savait pas conduire. Il n'avait pas eu l'idée de venir me chercher, ma mère non plus. Et j'ai un frère aîné qui, à cette époque-là, est âgé de 13 ans, 13-14 ans.
Il n'est pas venu en voiture, j'espère.
Non, il était débrouillard. Ouais. Donc mes parents lui ont donné de l'argent pour acheter les billets de train. Et il est allé me chercher jusqu'à Pau. Alors je vous explique pas, depuis la Franche-Comté jusque dans les Pyrénées, à l'époque, les changements de train qu'il y avait. Et en plus, on voyageait de nuit. Donc il y avait les célébrissimes trains couchettes, les machins, les trucs.
Et alors il s'est très bien acquitté
sa tâche. Il s'est très 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 bien débrouillé. Je n'avais que... J'étais petite, hein.
Ben oui, 9 ans, oui. 9 et 13 ans, les deux gamins qui... Oui,
voilà, bien. Alors qu'aujourd'hui, un mineur qui sort sans la permission de ses parents, c'est évidemment plus possible, parce qu'il y a toujours l'alerte, machin, etc.
Ah ben oui, dire... sauf si les parents savent où il va.
Voilà, mais en même temps, à l'époque, là, il n'y avait pas d'autre choix. Et je suis arrivée chez mes parents, il était 6 heures du matin. Voilà, et ma mère m'attendait avec un bol de café au lait de l'époque... tartines, beurre et confiture.
Elle devait être vraiment contente de vous revoir.
Oui, parce que j'ai dormi dans son lit.
Ah oui.
Voilà, j'ai dormi avec mes parents et tout. Voilà. Et puis, 6 mois plus tard, je repartais pour une autre institution.
Ah bon, mais pourquoi alors?
Mais parce que mon cursus scolaire ne pouvait plus être rattrapé là où j'étais. Je suis née dans le Doubs, en Franche-Comté, dans une petite ville qui s'appelle Montbéliard. Je suis née le 10 novembre 1972. Et donc, de là... allait commencer pour moi une séparation qui allait perdurer comme ça.
Séparation. Voilà. Donc, votre pauvre maman.
Voilà.
Alors, donc, 6 mois plus tard, vous êtes partie, c'est plus pour les études, en fait.
Ben non. Ah non. Je suis partie pour rattraper, justement, ce cursus scolaire.
Oui, justement, oui, pour la scolarité, oui.
Voilà. Mais qui ne m'a pas forcément donné la permission de faire des études comme j'aurais voulu. Moi, j'aurais voulu faire des études. Franchement, j'aurais voulu être psychanalyste. Je vous le dis très honnêtement. Avec ce que j'ai vécu, je pensais que j'aurais pu... essayer de comprendre les autres.
Mais bon, c'est pas bête, oui.
Mon cursus scolaire s'est arrêté un petit peu là, de manière assez...
Mais alors là, vous êtes repartie où
Je suis partie à Besançon.
Et c'était une école, c'était...
C'était un IES, un institut d'éducation spécialisée, où j'allais rester une dizaine d'années.
Ah, quand même.
Voilà. 10 ans, c'était pas 10 ans d'enfermement, de prison, c'était parce qu'il y avait un... comme une espèce de rééducation à refaire, je dirais, avec tout le côté culturel, tout le côté apprentissage de la vie, comment savoir se tenir à table, manger et tout, qu'il fallait que je réapprenne. Alors, Ça voulait dire que mes parents n'étaient pas capables. C'est peut-être la question que je me suis posée, mais je ne me suis pas posé cette question-là en me disant que mes parents n'étaient pas capables. Mais peut-être que eux, les institutions, jugeaient que mes parents n'étaient pas capables. Donc je pars dans cette institution qui se trouve à Besançon, dans le Doubs. Je vais y rester 10 ans. Et là, comme dans toutes les institutions, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des ceci, il y a des éducateurs qui partent, il y a des éducateurs qui restent.
10 ans, c'est très long quand même.
Oui, oui, oui. Il y a ceux qu'on aime moins, ceux qu'on n'aime pas. Et moi, il y avait...
Oui, en fait, jusqu'à 18 ans, en fin de compte. Jusqu'à
voilà, majeur. Voilà, enfin, voilà. Ouais. Et moi, il y avait un éducateur qui restera probablement gravé dans mon cœur, parce que bon, je ne l'ai pas connu beaucoup. Pour le peu que je l'ai connu, c'est très éphémère. J'ai connu un éducateur qui s'appelait Vincent Foncompré, qui est resté à peu près 1 an et demi, 2 ans, qui a été comme une seconde famille pour moi, en une seule personne, quoi.
Voilà. Il vous a vraiment... vous sentiez qu'il était là pour vous,
voilà,
et qu'il pouvait vous aider.
Je suis arrivée avec une valise, avec mon papa, avec je ne sais plus trop qui de ma famille, et le chef de service téléphone justement à l'éducateur en personne et dit « La petite Nadia est arrivée, il faut venir la chercher ». Et là, je vois, et à l'époque, j'étais déjà quand même bien observatrice, mais je me souviens très bien, je vois un bel homme, quoi. Vraiment, un bel homme, avec une légère, légère barbe, des cheveux bouclés, comme ça, grand, mince et tout, quoi. Qui vient me chercher, qui se présente, qui me prend par la main, qui prend ma valise de l'autre côté, et qui m'amène...
Ah oui, vous aviez 9 ans, là, 9 ans et demi, 10 ans, quoi.
Voilà.
Ah oui.
Donc là, à nouveau, je suis éloignée, mais en même temps, je suis rassurée parce que je suis dans les mains d'un homme qui va rester mon éducateur pendant 1 an et demi.
Oui, c'est important, au moment où vous arrivez.
Voilà. Et puis, se passe ce qui se passe, cet éducateur décide d'aller voir ailleurs, d'aller travailler ailleurs.
C'est donc, ça la difficulté d'être dans un institut comme ça.
Voilà. Et ça, ça a été quelque chose qui a brisé quelque chose en moi, qui fait que j'ai toujours eu par la suite une espèce d'appréhension à celui ou celle qui allait arriver, à l'inconnu, quoi.
C'est-à-dire, ça faisait beaucoup d'abandon quand même, entre la famille, quelqu'un qui vous attache un peu, qui part aussi, ça fait beaucoup de séparation.
Voilà, voilà, voilà. Et là, je me suis dit, Vincent, il s'en va, il n'y a plus rien d'autre.
On va faire une pause musicale pour avoir la suite juste après, comme un feuilleton.
De 10h à 11h, la santé mentale en question avec Anne Voileau.
Nadia, alors juste avant la pause musicale, on était, bon, vous êtes dans un institut d'études spécialisées, vous arrivez, vous êtes jeune, hein, vous avez 10 ans à peine, et puis il y a cette personne, Vincent, qui vous reçoit, c'est bien, et puis voilà, au bout 1 an et demi, il s'en va. Alors c'est terrible pour vous.
Oui, c'est terrible parce que c'est... J'arrive pas à l'expliquer parce que... Ça s'est passé tellement vite et je l'ai connu de façon tellement rapide que le peu de souvenirs que j'en ai, il est très, très, très fragile, quoi. Très éphémère.
Oui, mais vous vous souvenez quand même du désespoir que ça a créé chez vous quand il est parti.
Oui, ça a créé un désespoir terrible, quoi, parce que je me suis dit que c'était le seul éducateur envers lequel je pouvais me retourner. Et quand la personne, elle s'en va, comment voulez-vous vous retourner?
Ben oui, non. Et alors après, les autres, là, ça...
Après, j'ai eu d'autres des éducatrices, des référents, des machins, des trucs, etc. Mais il n'y en avait aucun qui remplaçait Vincent. Voilà.
Le premier que vous avez rencontré.
Voilà. Je l'ai toujours gardé pour moi, je l'ai toujours... Parce que j'arrivais pas à trouver, même pas en une éducatrice, Vincent, même pas à travers un éducateur, Vincent, j'arrivais pas. Pour moi, il n'y avait que lui, c'était que lui. Ouais. Bon.
Bah, c'est un peu normal, vous arriviez, vous étiez jeune, il vous a accueilli gentiment, c'est un peu normal un peu.
Voilà.
Et puis ça fait beaucoup d'abandon, de séparation dans votre vie quand même.
Voilà, voilà.
Alors quels sont les autres enfants? Comment ils sont les autres enfants qui sont avec vous?
Oh là là. Il y avait un enfant dont je garderai toute ma vie le souvenir, qui est mort d'un cancer du sang, qui s'appelait Pascal Giraud. J'étais gamine hein, quand on nous a annoncé qu'il avait un cancer du sang.
Il était jeune aussi, lui?
Très jeune. Il avait 7 ans.
Oh là là.
7 ans. Il est mort. Il devait avoir 7 ans et demi, 8 ans. Il était d'une pâleur. Je le revois encore. Il était d'une pâleur. Il avait pratiquement plus un cheveu sur la tête. Voilà, ça, c'est le cancer du sang. Et je me souviens d'une éducatrice quand elle nous avait annoncé ça.
Mais comment ça se fait qu'il n'était pas à l'hôpital?
Mais parce qu'en fait, ils l'ont vu trop tard.
Ah oui.
Ils l'ont vu beaucoup trop tard. C'était un garçon qui ne tenait pas debout, qui ne mangeait pas, qui était faible. Et on voyait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas du tout dans normal.
Quoi. Ils ne se sont pas occupés assez vite.
Et voilà. Donc, il est, mais je n'oublierai jamais ce garçon-là. Je ne sais pas pourquoi, mais des fois, je me disais que j'aurais peut-être mieux fait de partir aussi avec lui.
Oui, on pense quand on s'attache comme ça et puis qu'il y a quelque chose qui arrive, on se demande pourquoi lui, pas moi. Enfin, ouais. Quelque part, oui, c'est normal.
Quand Vincent est parti, c'est ce que je me suis dit, ouais, personnellement, que j'aurais peut-être mieux fait de partir avec lui.
Oui, mais Vincent, il est parti...
Il est parti pour vivre ailleurs.
Voilà, hein. Oui, c'est
alors
autre chose. Que ce gamin, c'est autre chose.
Voilà, quoi. Et je me souviens de l'annonce que nous a faite l'éducatrice, mais c'était comme si elle nous annonçait un spectacle, quoi. C'était terrible d'annoncer à des jeunes enfants la mort d'un enfant.
Ouais, d'un autre enfant qui était...
Voilà. Pascal Giraud est mort, il a été emporté par un cancer.
Comme ça, elle a annoncé ça comme ça.
Mais moi, j'étais déjà d'une sensibilité, d'une réceptivité qui me disait qu'on n'avait pas le droit d'annoncer ça comme ça.
Bien sûr que non.
Il y avait des mots pour ça, il y avait du temps, il y avait... Et après, moi, je lui ai pardonné à Monique. Elle s'appelait Monique. Je lui ai pardonné parce que je me suis dit que peut-être elle l'avait fait pour ne pas trop qu'on y pense.
Oui, mais d'un autre côté, c'est important. On sait maintenant qu'il faut parler des traumatismes avec les enfants. C'est important d'en parler, de les écouter. Et puis, il y a quand même une façon de présenter, effectivement.
Voilà.
Ouais. Mais peut-être elle l'a sûrement pas fait exprès.
Non, elle l'a pas fait exprès, mais c'était le ton. C'était un ton, genre, je vais vous annoncer le dernier spectacle en date, quoi.
Oui, parce qu'elle-même devait être choquée, donc voilà.
Elle a peut-être pas voulu trop y penser, quoi.
Ouais, voilà, ouais.
Ça a été l'un des pires souvenirs d'enfance que j'ai pu connaître, de voir ce garçon, puis sa mère. Mais c'était une femme qui était triste, qui s'est fermée. Elle a perdu son enfant, ça a été fini, quoi. C'était fini.
Et les autres, vous aviez quand même des amis, des copains?
Oui. Moi, ma meilleure amie, elle s'appelait Isabelle.
Et vous l'avez gardée, non?
Non, on s'est perdu de vue. Il paraît que j'ai appris des années plus tard qu'elle m'avait recherchée, mais je ne sais pas comment, parce qu'Internet n'était pas encore là.
Oui, voilà.
Donc,
ça aide quand même les amis.
Voilà. Oui, non, j'ai eu j'ai eu Isabelle, j'ai eu Rose, j'ai eu Isabelle et Rose, qui étaient probablement les deux copines les plus proches que j'ai eues à l'IES Fontaine-Argent de Besançon. On était toujours ensemble. Puis après, bon... Il y a eu des départs, il y a eu des changements,
bien
il y a
sûr,
eu beaucoup de choses. Ouais. Puis là, après, moi, j'ai connu quand même des déroutes comme ça, des échecs scolaires, des moments où j'arrivais plus à faire d'efforts, où je voulais plus entendre parler de rien. Et j'ai commencé un petit peu à me jeter sur la nourriture. Pas par boulimie, mais par contrariété.
Oui, bah c'est souvent la boulimie, c'est ça. C'est on mange pour compenser.
Voilà. Et... je me suis dit que c'était pas ça qui allait régler mes problèmes, mais si c'est pas ça, c'est quoi?
Oui, voilà. C'était quand même. Vous étiez très isolée, quand même. En votre famille, vous avez des frères et sœurs?
Oui.
Vous êtes combien dans la famille?
On est six.
Ah oui,
je suis la petite dernière.
Ah oui, la petite dernière.
Voilà.
Et pourquoi vous pensez que votre famille a laissé faire quelque part, parce qu'on lui a dit c'est mieux pour elle, hein, c'était par amour, mais vous étiez originaire d'où? Ils venaient d'où, vos parents?
Mes parents sont originaires d'Algérie, d'Oran plus précisément. Ils sont arrivés en 63 en France, donc après la guerre d'Algérie. Mon père avait cet objectif-là, c'était de vivre en France, de s'intégrer, et de respecter. Voilà, je pense que c'est un homme qui est arrivé à ça, il l'a fait, il est mort aujourd'hui. Quand moi j'ai eu mes problèmes de santé, quand je suis tombée malade, il n'a pas eu grand-chose à redire, puisqu'il savait qu'il était dans un pays qui avait tout, qui avait les possibilités, les moyens de pouvoir aider, de pouvoir soigner. Évidemment que si j'avais été née en Algérie, les choses auraient été différentes, mais comme j'y suis pas née, voilà, quoi.
Oui, donc, quelque part, il avait beaucoup de respect pour le pays qui l'accueillait, à tel point qu'il n'a pas remis en question ce qu'on lui proposait.
Voilà.
Et
évidemment qu'il a, comme ma mère, il a très très mal vécu ça. Il s'est dit que, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'elle va guérir et tout? Bon, ils ont laissé faire. Puis en même temps, ils y ont cru. Puis je crois qu'ils ont bien fait. Parce que, mine de rien, j'aurais pu très mal tourner. J'aurais pu... continuer à avoir des tas de problèmes de santé, j'aurais pu ne pas... voilà, quoi. Mais ce sont des expériences qui m'ont appris beaucoup sur moi-même, qui m'ont appris beaucoup sur la vie. Et quand on regarde aujourd'hui ce qu'on vit, quand on regarde aujourd'hui comment des gens vivent, si je peux me permettre, je préfère encore ce que moi j'ai vécu, quoi.
Oui, non, il y a toujours pire, mais il y a aussi. Et votre maman, ça a dû être très difficile pour elle parce qu'elle elle vous a très peu vu jusqu'à 18 ans, en fait.
Voilà. Donc, mais moi, au fil des années, comme ça, je commençais à m'habituer à cette séparation. Je pense que ma mère s'y est aussi un petit peu habituée, mais au fond d'elle-même, elle s'y est jamais vraiment habituée. Une mère ne s'habitue jamais à la séparation de son enfant. Hein.
Mais alors là, au moins, est-ce que vous alliez aux vacances à Noël ou pas du tout ?
Oui, j'y allais pour les vacances de Noël et après, je ne voulais pas repartir.
Ah bah ça, oui, ça je comprends.
Et là, c'était ça qui était dur.
Ouais, ouais.
C'est qu'il fallait que je revienne. Moi, je me souviens, on partait le vendredi soir chez soi. On devait revenir le dimanche soir ou le lundi matin. Et un jour, j'avais dit à ma mère, maman, il faut que tu téléphones à l'IES. Il faut que tu leur dises que je ne suis pas bien, je suis malade, je n'ai pas envie de rentrer et tout. Et ma mère était prête à jouer le jeu, il n'y avait pas de problème. Hein. Ouais. Sauf qu'eux, ils ne sont pas tombés dans le panneau. Donc, ils lui ont dit, Madame Sadji, il faut que Nadia elle, revienne à l'institution, sinon on prend une voiture et on vient la chercher. Et comme c'était à une heure, puisque c'était à Besançon, hein, c'était Montbéliard et Besançon, c'est une heure de trajet.
Ouais.
C'était facile, c'est pas comme si c'était à Pau dans les Pyrénées.
Ouais.
Donc là, je pense que mon petit...
Et ça devait être très dur quand même. Et les grandes vacances aussi ?
Les grandes vacances, je les avais aussi. Ouais. Quoi. Alors, ce qu'on n'avait pas en institution, bizarrement, c'était les vacances de Pâques.
Oh, c'est curieux ça.
Oui, ça, on ne les avait absolument pas. On n'avait pas du tout les vacances de Pâques. Et puis, la scolarité, le cursus scolaire se suivait à l'intérieur des institutions par des instituteurs, des profs qui étaient spécialisés, qui étaient vraiment spécialisés, qui étaient des éducateurs à la base, qui avaient fait des études d'éducateurs, et puis qui avaient aussi fait un peu, on va dire, une formation de professeurs pour pouvoir jongler avec les deux. Parce que c'était quand même des enfants qui avaient des retards scolaires, des échecs familiaux, puis des maladies, des conséquences
et
tout.
Mais vous n'aviez plus de pathologie là, à ce moment-là ?
J'en avais encore quelques-unes, mais bon, moi, je ne les voyais pas venir en même temps. Donc, voilà. Et donc, ce qui fait que j'ai suivi ma scolarité en institution.
Et alors, quand vous arrivez à 18 ans.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qui se passe, là ?
Et là, à 18 ans, 1990, on me dit, tu sors de l'IES Fontaine-Argent. Donc, je sors, je fais ma valise et tout. Je suis partie de l'IES Fontaine-Argent avec beaucoup d'amertume. Je suis partie parce qu'il y a eu un... connard d'éducateur, dont je ne citerai pas le nom, qui s'est quand même permis de briser mon rêve. Parce que moi, je suis née à Montbéliard, mais je voulais rester à Besançon parce que c'était une ville que j'aimais beaucoup. J'y avais mes repères, j'y avais tout. Donc, il m'a brisé mon rêve en me disant « Oui, je vais t'aider, tu verras, tu vas trouver une formation, un CAP, le CFA, les machins, les trucs de l'époque. » Et puis comme ça, tu pourras construire ta vie à Besançon. Puis finalement, il m'a bien eu. Donc, retour...
Parce qu'il n'a rien fait, il n'a rien fait.
Voilà, il n'a rien fait. Donc, et retour chez moi à Montbéliard. Donc, je retourne chez moi à Montbéliard. Et là, 2 mois plus tard, j'apprends que je rentre dans une autre institution.
Non, c'est pas vrai. Là, c'est une manie, ça. Mais comment ça
dans
se fait
dans une IM Pro, en fait.
Ah oui.
À Giromagny, dans le territoire de Belfort, en Franche-Comté. Et là, je vais y rester 3 ans et demi.
C'est pas...
Alors,
là, vous êtes destinés aux institutions, là, quand même.
Mais ça, c'est l'éducateur, c'est le directeur de l'époque, Monsieur Mayou, qui ne savait pas quoi faire...
Oui, donc il s'est dit, voilà.
Voilà, qui ne savait pas quoi faire des jeunes qui n'avaient pas les capacités à travailler en milieu ordinaire, comme on dit, hein, en extérieur, avec des diplômes, des formations, alors qu'on ne m'avait jamais donné la chance de le faire. Donc déjà.
Oui, déjà, vous savez, on aurait très bien pu vous mettre dans une formation en sortant de la première
voilà,
fois.
Absolument. Et donc, il envoie un courrier, c'était une grande enveloppe brun, à mon père, à ma mère, à ma famille, avec un courrier, avec un dossier à remplir, dans lequel Mademoiselle Sadji Nadia, moi, devra rentrer à l'IM Pro Giromagny, territoire de Belfort. Mais mes parents, ils ont dit, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. Moi, j'accepte. Pourquoi j'ai accepté ? Parce qu'avec les années, je me suis dit, une institution de plus ou une de moins, qu'est-ce que ça va changer ?
Oui, oui.
Autant le faire. Oui. Autant
vous
le
étiez
faire.
Très habituée quand même aux institutions.
Oui, j'étais très habituée. Donc moi, en fait, quelque part, mon éducation familiale, elle s'est faite à la française.
Oui, voilà,
C'est les institutions françaises qui m'ont fait mon éducation. Moi, je peux vous dire quelque chose qui m'est très très, très personnel, mais je vais quand même le dire, je mange du porc.
Oui. Voilà.
Ouais. Bon. Je suis d'origine algérienne, je ne suis pas musulmane, je ne suis pas pratiquante et j'en ai rien à faire.
Oui, donc je ne vois pas pourquoi vous soucier absolument.
Voilà, donc...
on va faire une pause musicale, on se retrouve tout de suite après. Alors après les 3 ans et demi, à tout de suite.
Vous écoutez La Santé Mentale en Question avec Anne Voileau.
Nadia, on arrive déjà à la dernière partie, mais c'est un roman, votre vie. Alors, on est né à l'Impro, re-institution. Alors là, vous faites quoi dans cette Impro?
NIM Pro, moi je ne sais plus trop ce que ça veut dire en abrégé.
Oui,
je l'institut médico, professionnel, d'orientation professionnelle, je ne sais plus quoi. Ça aide justement les personnes qui ont du mal à trouver un vrai emploi en milieu ordinaire, parce que c'est toujours le cap du milieu ordinaire, à peut-être se réinsérer en milieu protégé, ce qu'on appelle aujourd'hui les ESAT, les structures, les ateliers protégés. Donc moi, j'ai vécu cette période-là. Donc, je vais passer 3 ans dans un IM Pro qui va être une espèce de cursus professionnel beaucoup plus.
Alors, qu'est-ce qu'on vous enseigne, là?
Ben là, on m'enseigne comme on enseigne...
Un
métier, on va dire. Oui, il y avait la cuisine, il y avait la couture, il y avait la menuiserie. Oui, il y avait l'espace vert, il y avait... Mais il n'y avait rien de tout ça qui me plaisait. Parce que déjà, moi, au niveau de la couture, je ne suis pas du tout à droite.
En fait, ils enseignaient les métiers qui pouvaient vous permettre d'aller dans une autre institution, voilà, c'est-à-dire le CAT à l'époque.
Voilà, voilà. Et voilà. Et c'est vrai, vous avez raison, aujourd'hui les ESAT sont reconnus encore et encore comme des institutions.
Ben oui.
Donc, je suis institutionnellement...
et vous êtes institutionnalisée, carrément.
Voilà. Donc voilà, pour justement rentrer en milieu protégé en ESAT. Sauf que les ateliers qu'on proposait, ils n'avaient... aucun qui me plaisait. Et je savais que j'allais pas tenir le coup. Donc là, j'ai eu ma première dérive où j'ai travaillé en milieu protégé à Grand-Villard, dans le territoire de Belfort. J'y suis restée 6 mois. J'y suis restée 6 mois.
Qu'est-ce que vous faisiez là?
Ben, on faisait du conditionnement. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
Ah oui, c'est... Oh, oui, très haut, là, oui.
Vous arriviez à 7h le matin pour repartir à 17h le soir. Ah, déjà, moi, je n'apprenais rien du tout dans ce métier-là.
Bien,
quoi.
C'est bien, 6 mois. Vous êtes forte, hein, quand même.
D'être j'ai tenu 6 mois parce que j'en avais marre. J'en avais marre, ben, parce que je répondais, parce que je voyais paître un petit peu tout le monde et tout, parce que je voulais qu'on comprenne que ce n'était pas du tout ce que je recherchais et que j'avais peut-être du mal à l'exprimer autrement que par
quelque chose de plus intelligent à faire.
Voilà. Et je me suis dit, le seul moyen d'arriver à faire quelque chose qui me plaise, c'est faire du théâtre. Alors, faire du théâtre, trouver des ESAT culturels, trouver des ateliers théâtre dans le territoire de Belfort, il y en a, mais ce n'était pas encore ça. Parce que moi, je voulais vraiment faire mon métier. Et là, je me dis, les ESAT qu'on propose, parce que bon, voilà, c'est l'Est de la France, hein, c'est l'usine, c'est la grisaille, c'est tout ce qu'on veut, il n'y en avait pas. Donc je me suis dit, si tu veux vraiment arriver à faire du théâtre, il faut que tu t'envoles ailleurs. Et là, j'ai rencontré un éducateur qui s'appelait Jean-Marc, qui était un éducateur de service de suite, si vous préférez. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui reprenait un petit peu le parcours, le cursus des personnes.
Et qu'est-ce qu'elles aimeraient faire?
Voilà, et il m'a rencontrée, donc je lui ai reparlé un petit peu de mon parcours, de ce que je faisais et tout. Je lui ai dit véritablement ce que je voulais faire. Et de là, on a mis en place des démarches. Des démarches pour pouvoir réaliser ce rêve. Alors évidemment...
Mais ce qui est bien, c'est souvent quand les personnes disent, parce que faire du théâtre, ça veut dire comédienne, souvent les gens disent non, attends, ça... Lui, il est rentré dans cette envie.
Bah, il est rentré dans cette envie, je ne sais pas s'il y croyait, mais je pense que c'est parce qu'il avait tout intérêt à faire son travail avant tout.
Je pense qu'il y croyait, sinon il aurait essayé de vous...
Voilà.
Non, il y croyait.
Mais voilà, il y croyait, et puis il avait envie de le faire et tout, quoi. Et donc, on l'a fait. Ça a pris 10 ans.
Oui, mais 10 ans d'un parcours, quand même.
10 ans d'un
parcours.
C'est
passé des tas de choses dans la...
10 ans d'attente, 10 ans de... Pff, c'était un peu long, c'était un peu pénible. Moi, il y a eu des moments où je pensais raccrocher, quoi. Je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Puis je voulais absolument décoller du territoire de Belfort, parce que c'est un département qui est à la limite de ce qu'on peut vivre. Hein. Voilà.
Mais alors, vous avez mis 10 ans pour vous retrouver au Théâtre du Cristal?
Ben, en fait, c'est grâce à des recherches, on va dire, via Internet, qui se sont posées à peu près dans les années 2000-2001, qu'on a commencé à aller un petit peu en Île-de-France. On est allé en Île-de-France. Pourquoi on est allé en Île-de-France ? Parce qu'on a fait à peu près tous les départements de France.
C'est peut-être plus facile, oui.
Ouais, qui regorgeait un petit peu des attes culturelles. Et on s'est rendu compte qu'en Île-de-France, il y en avait deux, trois. Et puis que dans le Nord, il y a une compagnie. Et puis qu'en Bretagne, il y en a une autre aussi. Puis ainsi de suite. Puis voilà. Donc après, on a appelé, on a téléphoné. Et puis bon, les stages se sont faits. Voilà, puis ça a donné le résultat que ça a donné aujourd'hui.
C'est-à-dire aujourd'hui, voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes comédienne dans un théâtre du Cristal. Alors racontez-nous, parce que vous avez réussi votre rêve quand même, à travers un parcours quand même qui n'était pas évident entre nous.
Alors j'ai réalisé mon rêve de comédienne, mais moi je n'ai pas réalisé mon rêve de jouer des registres qui me plaisent. Vous voyez la différence ?
Ah oui, mais alors après, c'est déjà le premier pas du rêve.
Oui, mais j'ai quand même 10 ans, quand même.
Oui.
Au bout de 10 ans, je me suis dit, il y a quelque chose.
Mais vous commencez quand même à jouer des choses importantes et des choses qui vous plaisent.
Alors, on commence quand même à jouer un petit peu des choses qui nous plaisent. On ne va pas dire ça comme ça, mais des choses qui sont un petit peu différentes du registre qu'on connaît, dans lequel on a l'habitude d'être enfermé, ça commence à le faire. Parce qu'il faut quand même bien se rendre compte d'une chose, c'est que si on veut pouvoir continuer et avoir un public qui vous suit... Savoir aussi un petit peu évoluer.
Ben oui.
Et puis s'adapter à d'autres registres. Voilà. Mais toujours est-il que moi, quelque part en moi, il y a quand même quelque chose qui fait que je n'ai pas encore tout à fait atteint ce but, quoi. Je ne sais pas.
Alors, ça serait quoi d'atteindre votre but, là ?
Moi, personnellement, moi, j'aimerais bien jouer avec d'autres metteurs en scène. J'aimerais beaucoup travailler avec d'autres metteurs en scène, quoi. Je pense que faire du théâtre, c'est aussi travailler avec différents metteurs en scène, avec différentes formations, une écoute qui est différente, une approche différente, une formation différente qui fait qu'on peut avancer, qu'on peut évoluer. Si on travaille toujours, toujours, toujours avec la même personne, il y a une espèce de redondance.
Ah oui, c'est normal. D'ailleurs, voilà. Comédienne veut dire que vous devez jouer plusieurs rôles avec différentes personnes.
Voilà.
Ouais.
Et après, les registres, ça, c'est encore autre chose. Moi, j'ai rien contre le théâtre contemporain, mais j'aime bien aussi le classique. Quel genre de classique et quel genre de contemporain ? Ça, c'est pareil. C'est toujours un peu... C'est un choix à faire, quoi. Mais je pense que j'ai pas encore complètement abouti mon
Ah bah j'espère que non, vous êtes toute jeune. Heureusement que vous savez...
J'ai 23 ans, quand même.
Hein ? Oh bah oui, vous faites 30 ans, alors bon. Mais ça fait rien, ça n'a pas d'importance. Je pense que, heureusement que c'est pas abouti, parce que c'est ça aussi de continuer dans son métier et d'avancer. Si vous étiez arrivé, vous avanceriez plus.
Oui, aussi, mais après, j'ai un petit peu peur qu'un jour ou l'autre, il soit trop tard.
Voilà. Non mais là, vous faites tout pour bouger, quand même.
Je fais tout pour bouger. Pour être tout à fait honnête avec vous, moi, j'envisage un autre projet artistique et théâtral, probablement un départ. Voilà.
Un départ pour un autre endroit.
Voilà.
Oui, bah, ça me paraît, c'est un peu logique. Hein.
Voilà. Ouais. Je pense que ça aussi, c'est important de le mettre en place et de voir autre chose. Et puis de se dire que... Il peut y avoir autre chose.
Là, c'est important, oui. Voilà. Je pense que le Théâtre du Cristal vous a beaucoup apporté et vous avez beaucoup apporté. Hein. C'est un échange dans les deux sens, hein, d'après ce que j'ai entendu avec M. Coudert, il n'y a pas de problème. Mais c'est normal aussi que vous ayez envie de passer à autre chose.
Voilà. Donc, parce que c'est vrai que quand on reste une dizaine d'années dans la même compagnie...
Vous, c'est souvent 10 ans, hein, 10 ans, 10 ans.
Ah, moi, c'est 10 ans, moi. Hein. Vous avez vu, c'est le chiffre ferme, père, définitif.
Oui,
hein, voilà. Il n'y a pas 50 ans.
Il n'y a pas 10 ans que vous êtes au Théâtre du Cristal.
Si, je suis arrivée en 2005.
Ah ouais, ah bah ça y est, vous êtes mûre là.
Voilà, donc oui, c'est
toujours une étape. Et alors, comment vous faites vos recherches ? Parce que si quelqu'un nous écoute, on ne sait jamais, hein, s'il y a un théâtre qui nous entend et qui a envie de...
Comment je fais mes recherches pour mon projet, là ?
Oui, oui.
Déjà là, pour être honnête, j'ai un petit peu posé une candidature au Jeune et d'Or en Bretagne, dans un théâtre qui se trouve à Morlaix, en Bretagne. Et j'ai une proposition de stage en septembre de cette année. Pour un poste de comédienne. Alors, le directeur disait que ce n'était pas juste une rencontre de 3 jours, mais que c'était vraiment pour une admission. Donc déjà, il y a une opportunité. Donc c'est à moi de la saisir.
Ah bah oui.
C'est à moi de
tout essayer.
Voir.
Hein.
Voilà. Et oui. Puis, mais je pense sérieusement, oui, quitter les Îles-de-France, ça c'est sûr. Voilà.
Et vous aimeriez aussi aller quitter l'Île-de-France, ça vous plairait d'aller ailleurs ou...
J'aimerais bien, aller en Bretagne, là, comme j'envisage mon projet et tout. Parce que je me dis qu'on ne part pas tous les jours en Bretagne. On n'a pas l'occasion. Non, voilà. Moi, j'ai une opportunité. Donc, c'est là que je place le mot opportunité. Hein.
Oui.
Parce que non, j'ai quand même cette chance de bien. Pouvoir...
Il faudra revenir nous voir et nous dire comment ça se passe.
Moi, j'ai entendu dire que la metteur en scène qui travaille Genet d'Or, donc la compagnie Les Genet d'Or qui se trouve à Morlaix, connaît M. Coudert, paraît-il.
Ah bah alors ils vont s'entraider. Voilà, normalement. Voilà. Donc, comme il ne fera que des compliments, parce qu'il ne fait que des compliments de vous, ça va aider, je suis sûre.
Voilà.
Ah ouais, c'est bien d'avoir des projets comme ça, d'avancer, c'est vraiment bien.
Voilà.
Et votre maman, elle est toujours en vie. Comment elle voit ce que vous faites? Parce que les parents, souvent, ils sont inquiets.
C'est très difficile parce que je crois qu'elle est préoccupée par sa maladie puis qu'elle s'est un petit peu fermée dans sa maladie. Donc, je ne vais pas trop lui demander ce qu'elle pense.
Mais au départ, quand vous avez dit « je vais être comédienne »,
ils n'étaient pas fiers.
Ah ouais, oui,
non, parce que quand on est issu de famille maghrébin, on va vous dire oui, mais tu trouves que c'est un métier quand même que tu travailles à côté. Hein.
Ouais.
C'est un peu un passe-temps, quoi. Ouais, c'est pas véritablement considéré comme un métier.
Dans beaucoup de familles, on a un peu peur pour ses enfants. On se dit c'est pas forcément un métier.
Mais
on
bon, moi, après, j'ai la chance de décider pour moi-même et de ne pas toujours rendre de compte dans ma famille.
Ça jouit.
Puis
vous n'avez plus de compte à rendre aux institutions non plus.
Non plus, non. Donc voilà, quoi. Donc
merci beaucoup, Nadia. Votre vie, c'est passionnant. Et puis, il faudra venir nous raconter quand vous aurez changé de compagnie et que vous travaillerez dans un autre, comédienne dans un autre endroit.
Vous viendrez nous raconter. Ça marche.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Vivre FM, podcast.